Voilà, on est dans la présence du Seigneur, c'est bon. Hein? Vous sentez la présence du Seigneur? C'est important que vous puissiez dire oui. Hein? Moi, j'avais une parole toute simple tout à l'heure, c'est que au milieu de nous, il y a quelqu'un qui s'attend à ce que Dieu vienne frapper fort, se démontrer puissamment. Et en fait, ce que je recevais dans mon cœur, c'est que eh bien, Dieu, il veut se révéler dans un esprit de douceur, dans un esprit de, dans un souffle de douceur. Il veut parler à ton cœur, avec amour, avec grâce, avec plénitude. Nous, on regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu, il regarde au cœur. Et Dieu, ce matin, il veut te rappeler que, eh ben, il veut parler à ton cœur. Il veut pas faire une démonstration forcément de puissance, un miracle extraordinaire, mais le miracle, c'est qu'il parle à ton cœur. Amen. Alors ce matin, le thème du message, c'est rendre un culte à Dieu. Et je vais vous faire participer un petit peu. La suite du message, c'est rendre un culte à Dieu et redécouvrir Jéhovah Jéré. Alors, première chose que j'aimerais vous demander, quand vous venez dans la maison de Dieu, c'est quelque chose d'important, vous venez pourquoi ?
Pour rendre gloire à Dieu.
Rendre gloire à Dieu, ouais, une bonne réponse. Et puis ?
Pour lui, pour être rempli de Dieu, de qui il est.
Pour être rempli de qui il est. Pour
faire partie de l'Église.
Faire partie de l'Église, le corps. Amen. Être plus fort de jour en jour. Oui, amen. Oui.
Pour l'adorer.
Pour l'adorer. On a commencé par chanter quoi ? C'était « Vous bondirez » pour être dans la joie. Amen, pour se fortifier les uns les autres, partager. Et puis,
obéir.
Obéir, ouais, ça c'est plus difficile, mais c'est aussi une raison.
Bah, connaître ce que Dieu veut pour nous.
Se mettre dans l'actualité de Dieu. Oui, amen.
Qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, c'est là qu'il envoie sa bénédiction.
Recevoir la bénédiction, partager la plénitude de Dieu ensemble. Vous savez, quand vous allez à un mariage, je prends l'exemple du mariage. Moi, je me rappelle, avec Marie-André, j'étais en Afrique, et elle préparait le mariage. Alors, pour moi, c'était tout bénef, je faisais rien, je suis arrivé, les faire-part étaient pratiquement prêts, tout était bien. Bon, j'avais juste à dire, oui, je suis d'accord, non, là, ça me plaît pas trop. Enfin, le grand pacha, quoi. Et puis, il y a quelque chose qui était beau, c'est le faire-part qu'elle avait choisi. C'est deux barques qui s'attachaient l'une à l'autre, qui s'amarraient sur un même piquet. Et ce piquet, ça représentait notre amour pour Dieu, la solidité de Dieu. Et quand vous allez à un mariage, c'est parce que vous avez reçu quoi ? Un faire-part, une invitation. Et quand on vient dans la maison de Dieu, c'est parce qu'on a reçu, quoi, une sainte convocation. Tout à l'heure, il y a Régis qui a dit, je ne sais plus si c'est toi ou... Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons, allons à la maison de l'Éternel ». Hein, c'est un chant que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ce n'est pas une corvée. C'est vrai que des fois, ça peut paraître dur d'aller à la maison de Dieu quand on n'est pas en forme, qu'on est fatigué, qu'on a vécu une semaine difficile, qu'on en a plein la tête. Mais c'est vrai que quand on est dans la maison de Dieu, qu'on a fait l'effort de sortir du lit, de se lever tôt, « Ah, oh, c'est dimanche, je vais faire la grasse mat jusqu'à aller 10h. » Ben non, faut se lever à 8h30, 8h. parce qu'il y a la route, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Mais quand on est dans la présence de Dieu, on est renouvelé. On a reçu la sainte convocation du Seigneur. Et quand on veut rendre un culte à Dieu, c'est parce que on a reçu cette convocation. Si on n'a pas reçu la convocation quelque part, on n'ira pas. Mais tous les dimanches, il y a une sainte convocation à venir dans la présence de Dieu ensemble, parce qu'on est justement un corps uni. Et ça, c'est quelque chose qui démultiplie la bénédiction. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et ça, c'est vraiment fort. Alors, je vais vous donner quelques petites réflexions sur le culte à Dieu. C'est une sainte convocation. Il y a un lieu précis, et on le lira tout à l'heure dans la Bible, et il faut que nous, on sorte de notre confort et qu'on aille. C'est-à-dire, s'il y a une convocation, eh ben, quelque part, faut qu'on y réponde. Et c'est très intentionnel. Et Dieu, il attend qu'on mette toute notre énergie, tous nos efforts pour répondre à cette convocation. C'est dans un lieu précis. Et l'intention de Dieu pour le culte, quelque part, eh bien, c'est souvent pour la famille. Il invite, et c'est une des visions de notre Église, dans notre vision, on veut pas seulement le papa ou la maman ou l'enfant ou le grand-père ou l'arrière-grand-mère, on veut toute la famille, du plus petit, du bébé, jusqu'à l'arrière-arrière-grand-père, si on peut avoir arrière-arrière-grand-père. Bon, ça c'est ultra rarissime. Mais quelque part, on veut tout le monde. Parce que on remarque dans l'histoire juive, la Pâque, ils se sont mis par famille. Et ils tuaient l'agneau et puis ils sont sortis d'Égypte après avoir répandu le sang de l'agneau. Mais si la famille était trop petite et que l'agneau était trop gros, on invitait le voisin à côté qui n'avait pas beaucoup de famille et on remplissait la maison. Et c'est la signification de l'amour de Dieu, de l'élargissement que Dieu veut. L'intention de Dieu, c'est pour la famille, pour le peuple, pour la nation, et c'est un endroit de rencontre où il y a une fête. Le culte à Dieu, c'est la fête. Amen. Alors quand tu vas à un mariage, qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu passes le scanner de ta femme, qui dit non, pas cette chemise, pas ce pantalon, non, là, là, là. Tac, bon, alors elle dit, oh, je crois qu'on va aller faire des courses. Et tu prends la plus belle robe que tu as, le plus beau costume que tu as, parce que tu veux honorer quelque part les mariés. Et bien, quand on vient à la maison de Dieu, c'est la même chose. Tu mets ton plus beau blue jean, tu mets ta plus belle chemisette à fleurs si tu as un goût comme ça, hein, voilà, comme Régis. Tu choisis les plus belles chaussures que tu as parce que tu veux honorer Dieu. Et ça, c'est quelque chose de bon. Parce qu'on va dans un endroit de rencontre et dans cet endroit de rencontre, il y a de la joie. Dieu va te parler. Et c'est vrai que Dieu va te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il va se révéler à toi. Ça peut être dans la louange, ça peut être dans le message, ça peut être dans la Sainte Cène, ça peut être dans une prière d'un frère ou d'une sœur, mais Dieu va te parler. Parce que Dieu, s'il te fait venir dans cette convocation, c'est parce qu'il a une destinée pour toi et il veut se révéler. Et il veut que ta foi soit fortifiée, c'est un endroit où Dieu va ouvrir de nouvelles perspectives, il va ouvrir tes yeux. Et qu'est-ce qui est dit? Si on rencontre Jéhovah Jireh, eh bien, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse en ouvrant la Bible et on va prendre un texte que vous connaissez tous. C'est dans la Genèse. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Qui a son épée? Il faut venir avec tout l'attirail quand on vient. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Donc, il l'appelle Abraham. Il appelle Jonathan. Il appelle Régis. Il appelle Serge. Il appelle chacun d'entre nous. Et Abraham répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Et c'est intéressant, déjà, Abraham, il sait qu'il va offrir son fils, comme Dieu lui demande, mais aux serviteurs, il dit clairement, « Nous reviendrons auprès de vous. » Donc il a l'espérance que Dieu lui-même est capable de ressusciter les morts. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père lui dit « Mon père !» Il répondit « Me voici mon fils !» Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Yéré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et puis après, il y a toute la révélation où l'ange de l'Éternel appelle à nouveau Abraham et lui donne les bénédictions, les perspectives d'avenir. « Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, etc. » Il y a vraiment une grande bénédiction dans ce passage. Et j'aimerais que quand on vient dans la maison de Dieu, on vienne pour offrir quelque chose à Dieu, quelque chose qui nous est cher. Abraham, Dieu lui avait demandé le plus cher du plus cher du plus cher, c'était son fils. Et Abraham, il est venu avec son fils et il était prêt à l'offrir en sacrifice. Ce que tu as de plus cher, eh bien souvent, tu vas le gagner en le donnant à Dieu. En le donnant vraiment à Dieu, en ne retenant pas, mais en donnant. Et Dieu, il y a quelque chose qu'il va faire pour toi, c'est qu'il va ouvrir tes yeux sur les perspectives de ton avenir. Et quand Abraham a été prêt à offrir son fils en sacrifice, Dieu l'a retenu et il lui a ouvert les yeux sur quoi ? Eh bien, sur un bélier qui avait les cornes qui étaient prises dans le buisson. Et là, Abraham a dit « Ah ! Dieu a pourvu !» Et Dieu, il veut pourvoir aux besoins essentiels, aux aspirations essentielles que chacun d'entre nous, on a dans le cœur. Et ça se passe pas tout seul, ça se passe en famille. Pour Abraham, il est revenu avec une certitude de foi dans l'amour de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans Dieu qui pourvoit. Et pour Isaac, il est revenu, il est redescendu de la montagne. Eh bien, il est redescendu de la montagne en disant « Dieu est amour, il est puissant, il a pourvu. Il m'a permis de voir la foi de mon père, la foi de mon frère. Il m'a permis de voir l'amour de Dieu en action. Parce que Dieu est intervenu pour me sauver la vie. » Et ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, c'est qu'il veut pourvoir à ta vie, il veut te sauver la vie, il veut te donner et t'ouvrir les yeux sur les bénédictions et les perspectives. Et quand tu rentres dans un culte, normalement, c'est Jean-Baptiste qui disait tout à l'heure, tu ne dois pas ressortir comme tu es rentré. Vous savez, j'aimais bien un prédicateur qui disait, moi j'aime bien, je choisis une église, souvent, quand je vois les gens sortir de l'église, s'ils ressortent comme quand ils ressortent de chez le dentiste, je sais que j'irai pas là. Il faut qu'il y ait la joie, il faut qu'il y ait la puissance de Dieu qui soit développée. Et pendant ce temps de louange, on a vu le Saint-Esprit se mouvoir au-dessus de nous, au-dedans de nous. Et il y a des choses qui se sont passées que notre œil n'a pas vues. Mais Dieu, il a agi. Et vous savez, Jéhovah Jireh, eh ben ça a une signification particulière. Jéhovah, ça veut dire Dieu, l'Éternel, et Jireh, ça veut dire voir. Dieu voit et Dieu pourvoit. Et j'aime bien penser que Dieu, il te voit et il nous voit ensemble. Et quand on est réunis ensemble, il est au milieu de nous et il y a une démultiplication de puissance. Parce que peut-être toi, tu te sens faible aujourd'hui, mais à côté de toi, tu as des gens qui sont forts dans la foi et ils te demandent pas, Dieu te demande pas de regarder ta faiblesse, il te demande de le regarder à lui. Et j'aime bien que Dieu, il appelle Abraham sur le mont Morija. Il faut monter. Ça veut dire que, eh bien, tu sors de ta position, tu sors de ton confort, tu sors de chez toi et tu vas faire un effort, une petite grimpette. Tu vas monter en jogging, aller jusqu'à la montagne de Dieu. Et tu sais que Dieu, il est là-haut, il est puissant. Il est celui qui est au-dessus de toi. Il est celui qui pourvoit à tout, en tout et pour tout. Il est la source, il est la ressource. Pourquoi ? Parce que Dieu voit, et Dieu, non seulement il voit, mais... Amen, il entend. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on saisisse ça. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? C'est le psaume 94, 9. Proverbe 20, 12. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Au psaume 139, au chef des chambres de David, Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. J'aimerais qu'on dise ça ensemble. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Amen. Ça vous fait du bien de dire ça ? Eh bien, on le redit une fois, allez. Mais avec un peu plus de vigueur, un peu plus de puissance. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Amen. C'est important qu'on sache ça. Vous savez, dans une mêlée au rugby, il y a les premières lignes, les deuxièmes lignes, les costauds qui sont là. Ils s'entourent, ils sont forts. Et ce qui est devant eux, normalement, ça doit pas tenir. Ils doivent renverser le mur qui est devant eux. Et Dieu, il fait quelque chose de fort avec nous. Hein. Il fait une équipe avec nous. Alors je vais demander à ma fille Anaïs de venir. Elle est là. On fait une équipe de rugby extraordinaire tous les deux. Bon, c'est vrai qu'elle arrivait à ressortir le short tout blanc, le maillot tout blanc quand elle faisait du rugby. Voilà, donc imaginez quel est Jésus et que moi je suis Jean, tout bêtement. Voilà. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est que Jésus, quand je vais avec lui, eh bien, il m'entoure. Alors elle met sa main sur mon épaule et moi je peux mettre ma main sur son épaule. Et vous voyez, elle me fortifie, elle me fait du bien. Et on peut marcher tous les deux, on peut se baisser face à l'ennemi, on va tenir, on va les renverser, n'est-ce pas? Et c'est ce qui se passe quand on vient dans la maison de Dieu, quand on rend un culte à Dieu. On fait ce mur de grâce, ce mur de puissance, ce mur d'autorité. Merci, Anaïs. Elle est puissante, ma fille. Et ce que je veux vous dire, c'est il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne vraiment. C'est qu'on n'est pas une petite église lambda dans la ville. On est une église puissante dans la main de Dieu. Et on est puissant dans la main de Dieu, non pas parce que c'est moi le pasteur, ou Marie-André, ou Jean-Baptiste, ou Anne-Lise, ou je ne sais pas qui. On est puissant parce que chacun de nous, on est à la bonne place. Et on a répondu à la convocation que Dieu nous a donnée. Et quand on répond à la convocation que Dieu nous a donnée, eh bien l'équipe est au complet et ça fonctionne. L'Éternel voit et l'Éternel entend. Et non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Amen. L'Éternel qui voit et qui entend, il a prévu un trésor pour toi. Il y a un lieu d'entrepôt, de bénédiction pour toi, ta maison, ton quartier, ta nation. Mais il faut que tu ailles à la montagne de l'Éternel. Et à la montagne de l'Éternel, il va pourvoir. Parce qu'à la montagne de l'Éternel, il attend que tu fasses un sacrifice. Alors, quelle sorte de sacrifice? Je ne sais pas. Ça peut être un sacrifice de louange. Vous savez, le sacrifice de louange, on imagine, c'est quand je suis dans la joie que je chante le tcha-tcha-tcha et tout ça. Eh bien non, le sacrifice de louange, c'est précisément quand tout va mal. Quand tu n'es pas bien dans ta peau, quand tu as les intestins qui font des nœuds, que physiquement tu n'es pas bien, ben tu dis « Ah, je ne vais pas écouter ce que je ressens, mais je vais faire un sacrifice de louange, c'est-à-dire je vais louer Dieu de tout mon cœur, même si les circonstances, tout en moi, dit le contraire. » Là, c'est un sacrifice de louange. Et là, Dieu est honoré. Et là, c'est beau. Alors, il y a d'autres formes de sacrifices que Dieu veut que vous offriez. Il y a des choses qui, dans vos vies, sont des idoles. Alors, je ne sais pas, pour les hommes, c'est facile. Ça peut être la bagnole, par exemple. Mercedes, je ne sais pas quoi. Enfin bon, ce n'est pas le cas, je pense, mais... Ça peut être le sport, ça peut être un tas de trucs. Il faut remettre ces choses-là à Dieu, parce que Dieu va les remettre à leur place. Le premier qu'on doit adorer, c'est Dieu et lui seul. Et quand on vient à la maison de Dieu, si quelque chose a pris la place de Dieu, eh bien on doit le remettre à sa place. Et on doit dire, Dieu, je te l'offre sur le sacrifice de l'autel. Et on y met le feu, c'est-à-dire qu'on remet ces choses à leur place. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu va ouvrir nos yeux, la perspective de notre vie, de notre avenir, pour dessiner avec nous quelque chose de nouveau. Et on va ressortir joyeux. Vous savez, quand on est venu à Nantes, ici à Saint-Herblain, avec Marie-André, c'est parce qu'on voulait faire des émissions de témoignages dans toute la Bretagne à la radio. Et puis, 2 mois après, on nous a dit « La radio, c'est pas la peine d'essayer, c'est mort. Maintenant, c'est la télévision, c'est l'audiovisuel. » Et j'ai dit « Mais moi, je suis venu pour témoignage radio, je suis pas venu pour témoignage audiovisuel. » Et il a fallu que je mette ça sur l'autel de Dieu et je dise « Ben Seigneur, tu m'as appelé à venir ici, en tout cas, j'en suis sûr. » Donc si ce n'est pas pour la radio, je mets ça sur l'autel, ouvre-moi les yeux. Et quelques mois après, bon, entre deux, il y a eu des tempêtes, il y a eu un tas de trucs. Mais quelques mois après, Dieu m'a ouvert le ministère du pastorat. Et vous savez comment j'ai reçu le ministère de pasteur ? Je n'ai pas un ange qui est venu me dire « Hé, Jean, regarde !» Dieu t'a vu et tu vas être pasteur. Non, il a pris son 43 fillettes et pan, à coup de pied dans le derrière, j'ai reçu le ministère. Parce que quelque part, je voulais surtout pas être pasteur. Mais Dieu m'a parlé et m'a dit, c'est ta place. Et ben, quelque part, je m'y suis mis, je me suis levé, j'ai travaillé. Et vous savez qui m'a donné le diplôme, hein, je raconte souvent, c'est une des filles Poineau qui m'a fait un magnifique tableau. Et ça a été mon diplôme de pasteur, c'était un barbu qui avait une petite canne et il y avait des moutons dans une prairie. Elle m'a dit « Tiens, c'est pour toi, pasteur ». Et moi j'ai affiché ça dans mon bureau, j'ai dit « Voilà mon diplôme de pasteur ». Mais derrière, ce qui était important, c'était l'approbation de Dieu. Derrière, ce qui était important, c'est que Dieu m'ait ouvert les yeux sur ce qu'il voulait, ce qu'il attendait de moi. Que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas. Et il a fallu que j'entre dans cet appel comme ça. Et j'y suis rentré et j'ai de la joie. Aujourd'hui, je suis vraiment fier de ce que Dieu m'a appelé à vivre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement il m'a donné de la joie, mais il m'a donné aussi une femme extraordinaire. J'ai bâti une maison, j'ai bâti une famille, et toute ma maison, ma femme, mes enfants, eh bien, rentrent dans le processus d'adorer Dieu. Alors j'attends encore quelques petites améliorations, mais bon, les améliorations, c'est là, c'est dans mon cœur, et je dois libérer de la foi. Alors, la bénédiction, c'est pas seulement suite à un acte de bravoure, mais elle est avant tout la conséquence de la grâce de Dieu. Alors, je vais avancer un petit peu, mais Dieu, ce qui l'intéresse, il vit pas pour nous dans le futur, il vit pour nous dans le présent. Et il désire de nous voir vivre dans l'excellence de son abondance. Alors je vais vous demander un sacrifice. Vous allez vous tourner vers votre voisine, votre voisin, et vous lui dire « Dieu veut que tu sois dans l'abondance ». Amen. Amen. Alors, ça vous fait sourire, ça vous remplit, ça. C'est bon, hein? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Bon, on se le redit une fois, ça fait du bien. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Allez, regardez-moi pas, hein. Regardez votre voisin, votre voisine. Hein. Parce qu'à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Amen. t'as des rêves, Dieu veut les réaliser. Il veut les réaliser parce que les rêves qu'il a placés dans ta vie, c'est lui qui les a mis. Ça va pas arriver comme tu as envie forcément, mais ça va venir. Il faut que tu y travailles. Et comment y travailler? C'est intentionnel, il faut venir dans la maison de Dieu. Sainte convocation. Alors il y a des convocations qui sont plus dures que d'autres. Par exemple, la convocation redoutable du vendredi soir. Vendredi soir, 20h. Oh non, 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 c'est pas possible. Vous savez, avec Marie-André, il y avait des convocations pour nous. C'était le mercredi ou le jeudi. Il fallait mettre les 4 mouflets dans la voiture, faire 50 bornes pour aller dans la maison de...
Du frère
à Régis, voilà, à Saint-Gilda-des-Bois. Et puis là-bas, on passait 2 heures de réunion, 2h30, et on rentrait en pleine nuit. Et les enfants commençaient à dormir dans la voiture, etc. On n'arrivait pas avant minuit. Et ça, c'était toutes les semaines ou tous les 15 jours? Tous les 15 jours. Mais c'était une sainte convocation. Vous savez, un jour, on avait notre bébé, le dernier Solène, donc qui est porteuse d'une trisomie 21. Et puis, ce jour-là, c'était même un dimanche. On avait été un dimanche, je me rappelle. Ce jour-là, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, un vent puissant est rentré dans la pièce où ils étaient, où on était tous ensemble. Et ce vent puissant, j'ai saisi que ce n'était pas un vent naturel, c'était le vent du Saint-Esprit. Et Solène, elle dormait dans la pièce à côté. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible, le Seigneur est présent, qu'il aille jusque dans la pièce visiter Solène et qu'il la guérisse. Et Marie-André, elle a vécu exactement la même chose, sans qu'on se parle. Et puis, on a été chercher Solène à la fin de la réunion. Et vous savez ce que Solène a fait? Elle a rigolé. Et c'était la première fois qu'on voyait Solène rire. Et vous savez, les bébés trisomiques, ils sont atones, ils ont du mal à porter leur tête, elle était tout le temps triste, on la voyait pas rire, on la voyait pas sourire. Et ce jour-là, après la visitation du Saint-Esprit, elle s'est mise à rire. Et là, on a su qu'on a été récompensé, que Dieu avait touché notre fille. Et ça a été puissant. À la maison de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Donc si on fait l'effort, si on se rend à la convocation qu'on a reçue, la sainteté de Dieu va nous saisir. La sainteté et la puissance de Dieu va se révéler. Elle se manifestera peut-être pas de la manière qu'on a envie ou qu'on peut percevoir, mais Dieu y pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Jéhovah Jireh, l'Éternel voit et il pourvoit. Et ça, c'est merveilleux. Alors, Abraham, Isaac, ils ont été invités, mais dans le Nouveau Testament, c'est bien de parler de l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, eh bien, il y avait Pierre, Jacques et Jean qui ont été invités du temps de Jésus, et ils sont montés où? À la montagne de Transfiguration. Et à la montagne de Transfiguration, on pourra le dire, mais je ne veux pas prendre trop de temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont une révélation et ils voient qu'il y a Moïse et qu'il y a Élie et qu'ils causent avec Jésus. Extraordinaire. Et là, on est au centre du culte que Dieu veut sur la terre, au milieu de nous. Qu'est-ce que Dieu veut au milieu de nous? Il veut la révélation de sa loi. Moïse, c'est la loi. Il faut qu'on respecte la loi de Dieu. Mais nous, malheureusement, on est imparfaits Et de temps en temps, on s'en mêle les pinceaux et on ne fait pas ce qu'il faudrait qu'on fasse. Alors, on a besoin d'être redressé. On a besoin d'être corrigé. Et Dieu, il avait prévu ça avant que Jésus soit manifesté. Il avait prévu les prophètes. Et les prophètes, ils étaient là pour instruire le peuple, le remettre dans les voies de Dieu, pour amener la révélation de Dieu. Et moi, je soupire après ça, que nous publions les décrets de Dieu et que nous publions la révélation prophétique de Dieu. Au milieu de nous, il faut à la fois que nous prenions au sérieux la parole de Dieu, qui est quoi ? Une épée puissante qui renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et on a besoin de l'esprit prophétique qui amène la révélation de ce que Dieu attend de nous. Et entre la loi et l'esprit prophétique, il y a la grâce. Quand on s'en mêle les pinceaux, la grâce de Jésus est là pour nous conduire dans l'amour du Père et pour nous relever et pour nous fortifier. Alors, il y a la loi, il y a l'esprit prophétique, il y a la grâce, et puis il y a le peuple, Pierre, Jacques et Jean. Et vous savez ce qu'ils font ? Ils sont tellement bien dans la maison de Dieu qu'ils disent « Oh, super ! Écoute Jésus, on plante 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse, et on reste là, on est cool, c'est super ! On ne bouge pas !» Et à ce moment-là, l'onction de Dieu descend sur eux. Et ils voient Élie et Moïse et Jésus rentrer dans l'onction. Et Élie et Moïse disparaissent, seul Jésus reste. Ils disent « pas possible ». Et le projet des 3 tentes, foutu. Et non seulement ça, mais après, encore pire, il faut redescendre dans la vallée. Et dans la vallée, qu'est-ce qu'il y a ? Qui les attend ? Un papa pas content. Le papa pas content, pourquoi ? Parce qu'il a amené son fils aux disciples de Jésus, les 9 autres qui étaient restés. Il avait amené son fils pour que Jésus guérisse d'un esprit qui agitait son fils. Et le papa, pas content, va trouver Jésus, il dit « J'ai amené mon fils pour que tes disciples le guérissent, le délivrent, et ils sont pas arrivés. » Alors vous imaginez la tête de Pierre, Jacques et Jean. Ils se sont dit « Ça va chauffer. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit la détresse de cet homme, il voit la détresse de cet enfant, et il délivre l'enfant. Et nous, c'est un peu ça. Quand il y a l'onction de Dieu qui est dans le culte, on est super bien, on veut rester. On dit « Alice, continue, allez, encore un chant, Jean-Baptiste. Allez, ce soir, c'est pas jusqu'à 10h, ça va être jusqu'à 2h du mat, les gars. » Il a dit « Amen ». Ben, quand l'onction est là, on en profite. Mais il y a un moment, Dieu nous envoie. Et nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Alors, j'avais trouvé une petite phrase sympa à vous lire. Voilà. Et c'est souvent là que nous nous arrêtons. C'est trop bien la révélation. C'est trop dur la confrontation. On est équipé pour délivrer les gens. On est équipé pour annoncer l'amour de Jésus. On est équipé pour toucher les gens. Moi, j'aime bien ce que Cyril y fait. Vous savez, il a un métier qui n'est pas facile. Il est dans l'accueil des familles qui sont endeuillées. Hein. Il est là dans le service au cimetière. Mais il a un ministère de paix. Il a un ministère de grâce. Il ne va pas donner des versets bibliques à tout le monde. mais ce qui transpire de lui, c'est la plénitude de la compassion de Jésus. Et nous, on a tous chacun quelque chose de particulier qui émane de nous, mais il faut qu'on grandisse dans ces choses-là. Et pour grandir dans ces choses-là, il faut simplement qu'on accepte de suivre la révélation de Dieu, d'être fidèle, d'avoir un culte avec Dieu, de ne pas rater le moment du rendez-vous divin. Et le rendez-vous divin, eh bien, Dieu, c'est Dieu qui active. Écoutez bien, c'est Dieu qui active notre futur dans notre présent. C'est Dieu qui active notre futur dans notre présent. Parce que Dieu est le Dieu du présent. Il sait exactement où tu en es et il veut activer le projet qu'il a sur ta vie. Et c'est vraiment ça. Ça change nos motivations, nos manières de voir. Nous ne sommes plus dans une attente passive avec les trois tentes, mais on est dans une perspective d'obéissance et d'action. Parce que j'ai été visité, parce que j'ai été fortifié, parce que j'ai été obéissant, Dieu va se servir de moi d'une manière ou d'une autre. J'ai rempli les ballasts pour pouvoir donner. Et l'Église, elle est accomplie lorsque la loi, elle est proclamée, lorsque l'esprit prophétique est libéré, lorsque Jésus est adoré, lorsque nous sommes unis un seul cœur, la nuée du ciel se déploie sur nous comme la rosée de l'Hermon, comme la manne qui est déposée dans le désert. Et quand on vient au culte, je dirais, c'est important. Et Dieu, il a une provision pour nous, pour la semaine qui va se passer. Et on va grandir dans cette semaine. Et il y a une manne qui va venir chaque jour dans notre vie, chaque fois qu'on va ouvrir la parole. Et ça, c'est vraiment important. Alors voilà un petit peu, je ne vous ai pas dit tout ce que je voulais vous dire, parce que j'en ai écrit des tartines, j'aime bien écrire. Mais quelque part, je ne suis jamais trop fidèle à ce que j'ai écrit. Ce que j'aimerais vous communiquer, c'est la passion de venir dans la maison de Dieu et la passion d'en sortir. Le Seigneur m'a rempli, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur m'a fait du bien, je vais pouvoir faire du bien. Même si je ne me sens pas mieux, j'ai reçu quelque chose de Dieu. J'ai perçu. Vous savez, des fois, il y a des choses qui nous énervent. Vous savez, par exemple, vous êtes dans le culte, il y a un moment d'adoration extraordinaire, tout le monde y est, sauf vous. Parce que, il n'y a rien qui se passe dans votre cœur ou dans votre tête. Vous avez l'impression qu'ils sont tous là-haut, en train de danser la carmagnole, et que vous, vous avez les pieds lestés avec du plomb, et que vous êtes au fond d'une mare, au milieu de la vase, et que c'est vraiment terrible. Et puis plus ça va, pire c'est. Mais en percevant que tout le monde est en train de danser la carmagnole là-haut, vous percevez qu'il y a une action de Dieu qui est en train de se faire. Et il faut se saisir de ça en disant, « Seigneur, je n'ai pas pu goûter et voir combien tu étais bon, mais ce n'est pas grave, je ne m'attache pas à ce que je ressens, je m'attache à ta révélation. Ouvre mes yeux pour que je voie. » Et vous allez voir le bélier dans les buissons et vous allez pouvoir offrir votre sacrifice. Qu'est-ce qui vous leste les pieds? C'est que vous n'avez pas fait ce sacrifice. Qu'est-ce qui vous rattache ou qu'est-ce qui vous sépare de Dieu? C'est qu'il y a quelque chose entre vous et Dieu. Et ça s'appelle, vous devez poser un acte d'obéissance et de foi. Seigneur, je n'ai pas la force de te donner ça, mais je sais que je dois te le donner. Alors Seigneur, prends-le. Déjà, rien que de faire cette démarche, le Seigneur s'approche de vous. Et à ce moment-là, vous ressentez un peu plus de sa présence. Seigneur, je te dis, prends-le. Et le Seigneur s'approche encore. Et puis le Seigneur, il ne va pas tout faire. Il est près de toi, il pose sa main sur ton épaule, et d'un seul coup, tu as la force, tu dis, je sais que je peux te le donner. Alors je te le donne. Et la question c'est, tu ne le reprends pas en sortant du culte. La question c'est, tu le laisses à la croix. Et t'inquiète pas, si c'est nécessaire pour ta vie, Dieu va te le redonner. Mais tu n'auras pas le même attachement à ces choses-là. Ça contribuera simplement à ta vie, mais ce ne sera pas entre toi et Dieu. Moi, j'avais ma frangine, Michèle, elle aimait beaucoup Elvis Presley. Alors, elle est venue m'interviewer, elle m'a dit, « Jean, tu crois que si je me convertis, il va falloir que jette tous mes disques d'Elvis Presley ?» Je lui dis, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que si tu aimes les fraises, par exemple, et que tu te convertis, tu aimeras toujours les fraises. Mais ça sera remis à sa juste place. C'est tout. Et c'est vrai qu'elle a continué d'aimer Elvis Presley, mais, ça a été remis à sa place. Voilà. Il y a des choses qu'on doit donner à Dieu. Alors, je vous invite à vous lever. Est-ce que vous êtes d'accord de ressortir pas comme vous êtes entré? Attention, le Seigneur entend. Il a des oreilles pour entendre. Il a des yeux pour voir. Donc, s'il y a des choses qui vous ont parlé pendant ce message ou pendant ce culte, et que vous avez envie d'offrir un sacrifice à Dieu, parce que c'est là ce que Dieu demande, eh bien, on va simplement prier, et dans votre cœur, vous n'avez pas besoin de confesser avec la bouche, parce qu'il y a des choses silencieuses, il y a des choses secrètes qui sont entre vous et Dieu. Dans votre cœur, vous allez le donner à Dieu. Seigneur, tu es Jéhovah Jiré, tu es l'Éternel, tu es Adonai, tu es le Dieu puissant, saint et fort, tu es celui qui voit et tu es celui qui pourvoira. Seigneur, je me place maintenant en vérité devant toi. Et il y a des choses, je sais, qui te déplaisent dans ma vie. Maintenant, je veux les mettre en ordre, Seigneur. Parce que je ne veux pas ressortir de ce temps de culte sans avoir offert un sacrifice qui te plaît, Seigneur. Et j'ai vu que pour Abraham, tu lui as rendu son fils, Seigneur, et tu as pourvu avec le bélier. Et Seigneur, moi je veux t'offrir ce qu'il peut y avoir entre moi et toi, les points de désobéissance ou les points d'idolâtrie ou les points qui m'ont détourné de toi. Seigneur, je prends la décision de t'obéir. Seigneur, même si je sens que j'ai pas la force, je veux confesser aujourd'hui que je désire et que je m'engage à t'obéir, Seigneur, et à remettre de l'ordre dans ma vie, Seigneur. Et je sais que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu vas te révéler, tu vas m'ouvrir les yeux, tu vas me permettre d'entrer dans ta perspective, parce que je suis là pour t'offrir un sacrifice. Nous sommes tous là, Seigneur, pour t'offrir chacun un sacrifice, Seigneur. Un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration, un sacrifice d'obéissance, Seigneur. Et nous voulons te dire, et je veux te dire, Seigneur, que je me reconsacre à toi, Seigneur. Je me reconsacre à toi. Je veux te redonner toute ma vie. Je me livre à toi de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces, Seigneur. Parce que tu es le Dieu un et unique que je désire adorer, Père, Fils et Saint-Esprit. Et je demande que ta Shekinah, ta gloire, la gloire de ton esprit, descende sur ma vie, Seigneur. Non seulement sur ma vie, mais sur ma famille, Seigneur. Non seulement sur ma famille, mais sur mes bien-aimés, Seigneur. Non seulement sur mes bien-aimés, mais sur le peuple de Dieu, Seigneur. Non seulement sur le peuple de Dieu, mais sur la nation, Seigneur, que je représente. Seigneur, étends ta bonté, étends ta grâce, Seigneur. Touche-nous, transforme-nous, change cette Église en profondeur, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur, parce que nous désirons t'offrir un culte qui t'est agréable, Seigneur. Et nous voulons monter à ta maison, Seigneur. Nous voulons monter vers toi, Seigneur. Et si tu nous invites à monter, c'est pour nous transformer, Seigneur. Et nous désirons redescendre, transformer, pour toucher la misère du monde, Seigneur, avec ta compassion, avec ton autorité, avec ta puissance, Seigneur. Nous voulons pas dresser trois tentes, Seigneur. Nous voulons travailler, Seigneur, pour que tu sois manifesté sur la terre, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.